chemin de la connaissance. Toute la semaine, la vérité des mythes. Aujourd'hui, la voix des rêves avec Barbara Glosewski, anthropologue, directrice de recherche au CNRS. Barbara Glosewski, avant d'évoquer les mythes aborigènes et notamment leur fonction dans la vie et dans les traditions de ce peuple divers et pluriel, il serait peut-être utile de revenir donc sur cette cosmologie, la vision du monde des aborigènes, cette cosmologie que vous définissez comme une cosmologie réticulaire.
Oui, absolument. Pourquoi réticulaire ? Parce que la première image à laquelle on pense quand on parle des aborigènes d'Australie, qui représentent plus de 200 langues, c'est qu'il y a un aspect nomade. En réalité, ce n'étaient pas des cultures nomades au sens, par exemple, des Touaregs ou d'autres groupes de Sibérie. C'était des peuples semi-nomades. C'est-à-dire que quand ils le pouvaient, en fonction des saisons et des ressources, ils restaient assez longtemps dans certains endroits, mais il y avait une partie de l'année où ils se déplaçaient. Et ces déplacements étaient balisés, en quelque sorte, justement par des mythes qui sont projetés dans la géographie. Donc, l'aspect réseau, c'est l'inscription dans la terre de tous les récits qui sont à la fois transcrits dans des chants, dans des peintures et dans des danses et dans des rites. Mmh. Et la particularité de ces récits, c'est qu'ils correspondent à des sortes de feuilletons. C'est-à-dire qu'un groupe gardien d'une terre, disons, de plusieurs points d'eau qui s'étalent sur 200 kilomètres, dira que l'ancêtre qui est à l'origine de la formation de ces points d'eau et des collines et des ressources sur cet itinéraire a continué son voyage au-delà chez les voisins. Et on a ainsi des itinéraires qui traversent l'Australie comme un réseau pratiquement de part en part. Donc c'est comme un immense maillage.
Il y a une relation très forte à la Terre dans cette cosmologie.
C'est effectivement très important, puisqu'on a voulu dire que, puisque les aborigènes se déplaçaient, ne construisaient pas de maisons, n'avaient pas de jardins, donc ils étaient en quelque sorte flottants dans le territoire. Or justement, ce sont ces attaches spirituelles à des lieux particuliers qui sont véritablement une propriété foncière qu'ils n'expriment pas dans le sens où la terre leur appartient seulement, mais qu'ils appartiennent aussi à la terre.
Il faut dire, il faut rappeler que ce sont des territoires immenses. L'Australie représente 14 fois la France.
Tout à fait. Et d'ailleurs, un groupe comme les Walpiri du désert central, qui représente à peu près 3000 personnes, occupe un territoire donc dans le cœur de l'Australie qui fait 600 km nord-sud, 300 km est-ouest.
Mmh. Alors donc, vous avez divisé en somme cette carte immense en différents territoires qui correspondent aussi tout de même à des cultures, à des acculturations. Différentes.
Acculturation, j'aime pas beaucoup le mot, non. Parce que justement, au contraire, le propre même de la culture, c'est de se nourrir de ses interactions avec d'autres cultures, et donc si ça n'a pas lieu, en réalité, la culture s'enferme dans un musée et la société meurt. Mais en revanche, ce n'est pas tant que j'ai divisé la région, c'est les aborigènes aujourd'hui eux-mêmes qui ont toute une série de revendications territoriales pour prouver le fait que justement ils avaient des attaches ancestrales, et la loi a changé en Australie, puisque c'est très tardivement, après 200 ans de colonisation, c'est seulement en 1992 qu'on a reconnu le fait que l'Australie n'était pas terra nullius, c'est-à-dire qu'elle n'était pas vide d'habitants propriétaires. Donc, dans le livre, j'ai choisi 4 régions parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des aborigènes de ces 4 régions. Donc, j'ai commencé en 79 avec les Walpiri dans le désert central. Et puis, il y a une douzaine d'années, je suis allée vivre sur la côte nord-ouest puisque j'ai épousé un descendant d'aborigènes, Joan D. Wayne Barker, cinéaste et compositeur. Et là, nous avons fait un certain nombre de voyages ensemble et notamment des films, donc dans des régions de bord de mer et de plateaux où il y a les plus anciennes rupestre. Et ensuite, nous sommes allés il y a 3 ans en Terre d'Arnhem, où là, nous avons fait un autre film avec un autre groupe, les Yolngu.
Donc, on peut considérer la cosmologie aborigène, d'une manière générale, hein, évidemment, comme une projection, finalement, dans l'espace d'une structure qui est finalement tout à fait calquée sur cette terre.
Alors, c'est très difficile de généraliser tous les groupes, puisque chacun a son organisation sociale, son système de mythes, de rites, mais toutefois, effectivement, on peut parler d'une cosmologie générale, d'une vision générale. générale du monde, au sens où ils sont tous des chasseurs-cueilleurs, et donc ils lisent les traces laissées sur le sol pour vivre. Et ces traces-là ne sont pas seulement des traces qui permettent de pister un animal ou de trouver en suivant les racines ou trouver des ignames en creusant le sol. C'est aussi les traces que laisse le sol en brûlant les feuilles, le soleil, en brûlant les feuilles. C'est les traces que laisse le vent en poussant toujours dans le même sens. Et puis c'est aussi évidemment les traces humaines que l'on peut interpréter. Et puis aussi les traces géologiques.
Alors justement, quelle est la fonction du mythe? Le mythe a différentes fonctions hein, dans cette cosmologie. D'une manière générale, est-ce que c'est un récit édifiant? Est-ce que c'est un récit initiatique?
Alors, c'est les deux. Les mythes, pour les aborigènes, sont des histoires vraies. C'est-à-dire au sens où ce sont des histoires fondamentales qui disent la loi du groupe. Et cette loi est faite d'une série de règles qu'il faut respecter, aussi bien au niveau des mariages, aussi bien au niveau du maintien des ressources. Elles sont accompagnées d'un grand nombre de rites qu'il faut effectuer pour maintenir cet équilibre avec l'environnement. Mais ce sont pas seulement des narrations, ce sont aussi des cycles de chants qui sont cryptés. Et puis, surtout, au niveau initiatique, ce sont des choses qui se déploient avec le temps, au fur et à mesure que l'on fait des cérémonies et que l'on grandit, qu'on passe un certain nombre de rites de passage pour passer du statut de garçon à homme et de jeune fille à femme. Et donc, c'est aussi un processus révélatoire. Et dans le cas aborigène, ce qui est extrêmement important, c'est que le mythe est directement associé à l'expérience du rêve.
Oui, on va en reparler, mais alors évoquons peut-être, pour commencer, Barbara Glosewski, ce mythe de l'émeu dont nous entendons, l'émeu donc, qui est une espèce de dinosaure, et dont nous entendons une version chantée.
Alors c'est pas que l'émeu est une espèce de dinosaure, c'est que pour les aborigènes, de la côte nord-ouest jusqu'au désert, il y a un personnage ancestral qui s'appelle Karnalancha et qui est décrit comme un émeu géant. L'émeu, c'est l'équivalent de l'autruche africaine, et émeu géant, c'est-à-dire vraiment immense, hein, plus de 30 mètres. Et donc, cet émeu géant, il est perçu par ces traces qu'il a laissées dans le sol en forme de grandes flèches de 1 mètre de diamètre que l'on trouve le long de tout le rivage de la côte d'Ampierre dans le nord-ouest de l'Australie. Deux fois par an, on peut les observer quand la marée est extrêmement basse. Or, les spécialistes qui sont venus étudier ces étranges flèches ont identifié ces flèches comme étant celles d'une espèce particulière de dinosaure. Donc, ce que l'on a là, c'est une rencontre entre une lecture du sol, de l'espace, des couches géologiques et des différentes traces de ce qui s'est passé là, notamment à l'époque où la Terre était encore molle, hein, puisque l'Australie a bougé, et que les aborigènes, en l'occurrence, ont interprété avec leur propre symbolique pour signifier l'ancienneté de cette occupation du sol par ce qu'ils appellent leurs ancêtres, mais qui ne sont pas juste des humains, qui sont justement ce qui lie les hommes à toute la diversité de la nature.
Barbara Glosewski, ce qu'on entend donc, c'est une version orale de ce mythe.
Oui, c'est une version chantée, justement adaptée par un descendant aborigène, donc de Yarou et Jabba, donc Jawandi Wayne Barker. Et c'est un rythme qui est traditionnel, mais qui est adapté ici par rapport à la musique d'aujourd'hui. Alors, ce qui est important, c'est avec cette histoire d'émeu, c'est qu'on s'aperçoit tout ce qui est nommé dans la nature et dans la culture à son mythe. Les aborigènes disent dans leurs différentes langues son rêve. Et quand ils disent qu'il y a un rêve pour un oiseau, pour un kangourou, pour une igname, pour une prune, pour le vent, pour la pluie, ça veut dire qu'il y a une virtualité dans cette forme qu'a pris la vie sur Terre, qui continue à se reproduire génération après génération, à condition que les hommes maintiennent un équilibre avec, d'où l'importance des rites. Alors, tout a un rêve, mais les oiseaux sont particulièrement importants dans le nord-ouest de l'Australie.
C'est vrai qu'on les voit beaucoup dans les mythes.
On les voit beaucoup dans les mythes. Il y a aussi des mythes qui parlent des reptiles, qui parlent des marsupiaux. Mais les oiseaux sont importants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque espèce animale a en quelque sorte une fonction symbolique un peu différente. Elle apporte quelque chose de différent aux hommes. Et les oiseaux sont perçus dans le nord-ouest de l'Australie par une vingtaine de groupes de langues différentes comme ceux qui leur ont, disons, pratiquement appris à parler.
Oui, oui, on est là dans une situation inverse de celle des Grecs qui considéraient que le langage des oiseaux n'était pas un langage humain.
Voilà, alors ça c'est une comparaison qui est très intéressante parce que justement ce qui est très important pour les aborigènes, c'est de se définir des identités différentes localement, mais elles n'ont de sens que parce qu'elles sont reliées à d'autres identités. C'est pas un rapport entre le même et l'autre au sens de deux univers qui s'opposent. C'est toujours cette notion très réticulaire du réseau, c'est-à-dire qu'un groupe qui vit dans le désert, c'est très bien parce qu'il effectuait des échanges, pas forcément par des personnes, mais en faisant circuler des chants, des rites et des objets, à travers une chaîne de groupes, de langues différentes sur plus de 1000 kilomètres entre le désert et la côte nord-ouest, comme par exemple les coquilles perlières qui voyageaient depuis la mer vers le désert et puis ensuite qui revenaient et qui repartaient ailleurs. Donc ils ont cette reconnaissance de la nécessité de cette altérité. Alors c'est peut-être pour ça que les oiseaux sont si importants, parce que justement le conciliabule des oiseaux consiste à arriver à faire du désordre des chaînes ordonnées qui respectent toujours ces singularités existentielles.
Alors, vous l'évoquiez, Barbara Glosewski, il y a une relation forte entre le mythe et le rêve dans la vision du monde aborigène. Et je voulais vous citer, parce que dans une formule, vous ramassez bien toute cette complexité. Vous parlez des rêves mythes ancestraux qui se nourrissent ainsi d'interprétations oniriques humaines qui viennent confirmer ou modifier des interprétations précédentes. Il y a une sorte de réactualisation des rêves mythes ancestraux, finalement, à chaque nouvelle avancée du rêveur, en quelque sorte. Rêver en ce sens n'est pas inventer, mais retrouver quelque chose qui était perdu ou virtuellement là depuis toujours dans la mémoire que les hommes partagent avec les êtres du rêve, ancêtres hybrides des hommes, mais aussi virtualité éternelle de vie qui continue à rêver le monde dans les sites terrestres et célestes où ils sont en devenir.
Oui, tout à fait. Donc il y a cette interaction qui est pensée comme permanente entre les hommes et puis la mémoire de la Terre, pensée comme une sorte de matrice de possible, notamment par le fait que chaque naissance va être interprété en rêve pour savoir à quelle espèce particulière et à quel lieu particulier un enfant, un être est lié spirituellement. Et donc ce sera ce que les Wapiri appellent le Guruwalpa, son esprit en forme. Et les autres groupes ont des concepts équivalents. Et le rêve est aussi important parce que c'est vraiment un outil de survie. Il y a un très joli mythe pour le rêve Bergeronnette et Caille, qui étaient deux femmes qui avaient choisi de vivre loin des hommes, et Caille avait deux filles, deux jeunes filles, et puis Bergeronnette avait un très très gros ventre. Et les deux jeunes filles se demandaient un petit peu comment il se faisait que Bergeronnette avait un si gros ventre, alors elles le regardaient toujours, et voilà que un jour, elles ont eu, l'aînée a fait un rêve. Et dans ce rêve, elle a eu la révélation de pourquoi Bergeronnette avait un gros ventre. Mais au lieu de raconter l'histoire, je vais lire un passage tel que ça m'a été raconté par Nakakut Nakamara Gibson, qui est une femme Walpiri décédée aujourd'hui, qui était en quelque sorte ma mère adoptive chez les Walpiri il y a 25 ans, et qui est en couverture du livre « Rêve en colère ». Et donc l'histoire dure très longtemps, et puis surtout quand elle est racontée avec des dessins sur le sable qui sont des scénettes qui se succèdent où on pose les personnages et on fait avancer l'action avec les doigts. Donc on arrive à l'épisode suivant. Arrivée à son abri habituel, Bergeronnette écarte les jambes pour laisser sortir son fils. Dans ce ventre, c'est un fils adulte. Après qu'il se fut abreuvé et nourri, elle lui dit « Ne te détourne pas de ton chemin de chasse. Suis la même piste qu'hier et cherche le gibier dans cette direction. Moi, j'irai dans l'autre sens pour trouver des ignames. » Bergeronnette parle ainsi à son fils pour que leurs empreintes ne se croisent pas et qu'ils ne s'approchent pas de l'endroit où chassent Caille et ses deux filles. La mère et le fils se séparent comme convenu. L'après-midi, Bergeronnette revient à son abri et cuit les ignames qu'elle a déterrés. Peu après, son fils lui rapporte à nouveau des brochettes de kangourou. Il dépose sa lance et son propulseur dans un arbre et mange les ignames cuites par sa mère. Mais quand elle rouvre ses jambes, il est très en colère et se dit « Pourquoi dois-je toujours retourner à l'intérieur? C'est tellement mieux d'être dehors et de chasser. Je me sens si seule quand je suis enfermée. » Pourtant, il n'ose rien dire à sa mère et s'exécute. Elle ne se doute pas de la peine de son fils et retourne au camp avec lui dans son ventre. Cette fois, Kay a prévenu ses filles. Ne regardez pas Bergeronnette. Alors, la suite de l'histoire, ça ressemble à une tragédie grecque, littéralement, puisque, en fait, les deux jeunes filles vont suivre l'idée qu'elles ont eue en rêve, où l'aînée a vu un jeune homme qui tournait autour de Bergeronnette. Et donc, elle se dit, il faut qu'on trouve des traces. Il doit y avoir un homme quelque part. Et donc, elles partent pister, elles trouvent effectivement eh bien les deux chemins qui se croisent, de Bergeronnette et de son fils. Donc, elles pistent le fils, elles l'attrapent, et elles lui expliquent que quand même, il est temps qu'il sorte du ventre de sa mère et qu'il les épouse, ce qu'il fait. Mais entre-temps, la mère Bergeronnette est extrêmement en colère, puisque elle ne supporte pas d'avoir perdu son fils, et elle s'en prend à la mère des deux jeunes filles qu'elle tue. Et donc, le fils est obligé, pour venger sa nouvelle belle-mère, de tuer sa mère. Et cette histoire est racontée aux jeunes garçons et aux jeunes filles quand ils ont à peu près 10 ans, au moment de la préparation pour l'initiation, justement pour leur montrer qu'il faut apprendre à se séparer des parents pour assumer une vie d'allié.
Et vous dites, Barbara Glosewski, que l'être au monde aborigène reconstruit à chaque naissance une histoire singulière qui est à la fois donc immanente et transcendante.
Oui, tout à fait, puisque à la fois on a ce lien avec quelque chose d'ancestral, mais qui est donc bien inscrit dans un lieu particulier de la Terre, mais en même temps, on a beaucoup discuté dans la vieille littérature anthropologique sur le fait que les aborigènes, ils ont ces histoires d'esprit enfant, un enfant doit être rêvé, alors en fait, ils ne savaient pas que c'est par le rapport sexuel que se font les enfants. Il y a des kilomètres de livres comme ça. Or, ce que nous disent les aborigènes, tout simplement, c'est que ça ne suffit pas. Donc, ils ont une conception qui n'est pas très éloignée de ce qui se dit en analyse aujourd'hui chez nous, sur le fait qu'il y a un désir d'enfant qui ne se construit pas seulement dans le désir des parents, mais qui se construit aussi dans cette mystérieuse vie qui émerge. Et ça, c'est tellement fort que, justement, dans les différentes organisations sociales, bien qu'on puisse hériter des choses du père, de la mère ou d'autres membres de la parentèle, fondamentalement, l'individu est pensé comme autonome, comme singulier. Et on retrouve ça aussi au niveau de la symbolique visuelle. Si on regarde de près l'art extraordinaire qui est produit par les aborigènes aujourd'hui,
qui est connu depuis longtemps d'ailleurs,
tout à fait, il y a toujours une tension entre les lignes parallèles et les croisements. Et il n'y a pas véritablement de choses qui se croisent, au sens où à chaque fois qu'une ligne rencontre une autre, c'est comme un trou noir. Et c'est dans ce trou noir qu'émerge la singularité et la vie et la place de l'individu.
Oui, c'est une belle définition de la singularité. Alors, le rôle de l'enfant est important. Il est considéré par les aborigènes comme, dites-vous, un portail, un connecteur vers l'espace-temps du dreaming. On a évoqué l'importance du rêve. Alors, le dreaming, c'est, dites-vous, l'espace-temps d'ancêtres cosmiques, éternels et sacrés, qui réconcilie donc immanence et transcendance, l'esprit du cosmos et l'esprit du corps. Et les enfants sont en quelque sorte des médiateurs privilégiés.
Oui, chaque individu à la naissance fait lien avec cette ancestralité, mais c'est aussi l'idée que, contrairement au discours très évolutionniste de l'Occident qui va chercher une espèce animale, un ancêtre commun aux singes et aux hommes, ce que les aborigènes disent, c'est que cette ancestralité, elle est partagée avec tout le vivant. Donc ce lien au cosmos, c'est aussi bien à tous les animaux, à toutes les plantes, qu'aux étoiles. C'est-à-dire que fondamentalement, ce qui fait l'essence, ce qu'ils appellent des particules de rêve, ou même aujourd'hui quand ils parlent en anglais, ils disent des gènes de rêve, c'est commun aussi bien aux humains, au règne animal, végétal, minéral, aux étoiles.
On est dans une vision du monde chamanique, hein, où les humains ont des équivalents animaux et inversement, finalement. Mais justement, je voulais évoquer avec vous, Barbara Glosevski, un autre mythe important, parce que justement, il est lié au monde des ancêtres, c'est le mythe des deux hommes.
Oui, alors le Watikuchara ou Wampachara, selon les langues, effectivement, il y a près de 2/3 des groupes en Australie qui, en dehors de tous ces itinéraires liés aux animaux, aux plantes, aussi à la pluie, parlent de ces deux ancêtres. Watikuchara, ça veut dire deux hommes, littéralement. Et qui sont, là encore, on se rapproche d'une certaine mythologie grecque, parce qu'ils étaient les fils d'un être, Wawulcha, ou Walpiri, qui était invincible et qui ne voulait pas de fils. Donc, il épousait à l'infini ses filles. Et ses filles, femmes, ont réussi à sauver deux jeunes garçons de l'inceste, à les faire vivre séparément. Et quand ils ont grandi, ils se sont vengés de leur père, en le touchant notamment aux testicules, qui, entre parenthèses, sont devenus une mine d'or. Et ça fait beaucoup rigoler les aborigènes, parce qu'ils disent que c'est le pu de l'invincible qui intéresse tellement les Occidentaux. Et donc, ils ont entrepris une longue croisade dans le mythe, allant de groupe en groupe en leur donnant des systèmes de parenté différents et aussi en jouant avec des pierres de couleur qui étaient des cristaux. Et ils s'amusaient beaucoup à faire en sorte justement que les groupes se disputent et affirment leurs différences au fur et à mesure. Hein. Au lieu d'amener la même loi partout où ils s'arrêtaient, ils donnaient une autre manière de composer la parenté. Mmh. Et Watikuchara, quand on arrive sur la côte nord-ouest, on dit, eh bien, ensuite, ayant fait ce parcours, ils sont montés au ciel, ils sont devenus Bilyur, qui est le trou noir dans la Voie lactée. Et ce Bilyur, eh bien, c'est en chacun. C'est en chaque personne. C'est-à-dire que Watikuchara, c'est une sorte d'image du sujet divisé.
D'ailleurs, le chiffre 2 est important mythologiquement pour les aborigènes.
Oui.
Parce qu'avec 2, on fait 1.
Oui, enfin, avec
le thème de la génération.
Disons que c'est plutôt qu'il faut toujours séparer pour pouvoir connecter. Hein? Donc c'est vraiment une logique qui consiste à ne pas rendre tout homogène, mais au contraire de toujours insister sur le fait qu'il y a des différences et que c'est grâce à ces différences que l'on peut communiquer.
Glosevski, le chant qu'on peut entendre et donc la parole qui nomme et localise sont des actions qui font trace en tissant des relations, c'est la cosmologie aborigène, entre la Terre, les humains et toutes les espèces.
Oui, tout à fait.
Et ça passe aussi non seulement par le rêve, mais par le chant.
Oui, bien sûr, le chant est essentiel. D'ailleurs, dans les rituels, le chant est aussi une sorte de marqueur de mémoire. C'est-à-dire que, par exemple, si on est en train de chanter le rêve de la pluie, comme on vient d'entendre, et qu'on est en train de chanter le voyage des êtres pluie et des êtres nuages entre tel trou d'eau, et sur 100 km, et que ce sont 100 km où, au moment de la saison sèche, on ne pourra trouver aucune autre source d'eau sur ces 100 km, parce que on est en plein désert. Juste après la saison des pluies, éventuellement, il y aura quelques pierres où on pourra trouver une petite
poche.
Bon, mais au moment de l'initiation, on va chanter ce cycle plus rapidement. Pourquoi ? Parce que c'est une façon d'apprendre aux jeunes que s'ils voyagent de tel point à tel point, il y a là un danger. Donc, même si on ne chante que les deux toponymes et qu'on les répète à l'infini, on sait que la séquence du point A au point B, il faut aller très vite. Alors ça, c'est merveilleux parce que nous, on est toujours en train...
C'est un apprentissage de l'espace aussi.
Absolument. Et donc, on demande toujours aux aborigènes, alors ça, c'est loin, c'est pas loin, c'est à tant de kilomètres ou pas, mais ça n'a aucune importance. Parce que l'espace bouge, en fait, est relatif à la vitesse à laquelle il faut marcher pour parcourir l'espace entre deux lieux en fonction des ressources qu'on y trouve.
Mmh. Et donc, alors, ce mythe des deux hommes, il explique bien des choses aussi sur l'origine des aborigènes.
Tous les mythes expliquent quelque chose sur l'origine des aborigènes. L'important avec le mythe des deux hommes, c'est l'idée qu'il faut quelque chose de la parenté, de l'organisation sociale qui instaure des règles pour que les gens, justement, se reproduisent de manière diversifiée.
Oui, 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 c'est ça. En fait, c'est apprendre le système de parenté aborigène, en somme.
Les différents systèmes selon le lieu où on est, et en même temps, savoir que par le chamanisme, on est lié aux autres groupes.
Alors, on a vu que finalement, chaque individu, à travers ses rêves, peut réactualiser d'une certaine manière ou réinterpréter le stock de mythes existants. Et je me demandais, comme on sait que la colonisation de l'Australie a été très très violente finalement pour ces populations, est-ce que cet épisode dramatique a donc eu son influence sur cette mythologie aborigène?
Oui, alors l'épisode dramatique, il n'y en a pas eu qu'un, il s'est prolongé, et puis dans certaines régions, il dure encore sous d'autres formes. C'est plus les fusils, mais c'est la bureaucratie qui tue littéralement les aborigènes.
L'industrialisation.
Il y a un très haut taux de suicide, il y a des accidents, enfin je veux dire. Mais bien sûr, tout ce qui faisait l'histoire des aborigènes avant le contact était intégré dans les interprétations mythiques, et dès lors qu'il y a eu contact, il y a eu une assimilation, une tentative symbolique d'expliquer tous ces traumatismes, et notamment par des rituels très secrets qui ont circulé sur plus d'une centaine d'années de groupe en groupe, parfois même pour les prévenir des dangers qui arrivaient.
Alors, quelle forme littéraire presque ça a pris? Dans quel récit est-ce que ça s'est déposé?
Eh bien, il y a de nombreux récits, mais le récit ne suffit pas. Ce qui est extrêmement important, c'est la performance, c'est-à-dire la forme qu'ont pris particulièrement ce que j'appelle ces cultes historiques, c'est le fait qu'il fallait revivre quelque chose du traumatisme, comme dans une sorte de psychodrame ritualisé, pour arriver à le dépasser. Et donc, à côté de la vie rituelle, le fait qu'on se peint le corps, que l'on va chanter, que l'on va danser, il y a aussi une série d'épreuves physiques, le jeûne, des cicatrisations, etc. Et puis, le fait que les gens se rassemblent et échangent des expériences et parlent de stratégies de résistance.
En direct. Merci Barbara Glosewski. Je rappelle que vous êtes anthropologue, directrice de recherche au CNRS et que vous avez publié Rêves en colère avec les aborigènes australiens chez Plon dans la célèbre collection Terre humaine.